Alors je vais appeler nos ingénieurs du Centre d'exploration du temps. Allô, au Centre d'exploration du temps, me recevez-vous ?
Quelle histoire pour la France !
Nous sommes un seul pays, un seul peuple, une seule France. Une France sans distinction de religion, de croyance, de sensibilité. Face à celles et ceux qui veulent nous installer je ne sais quelle guerre de religion en notre sein. Ce sursaut de notre pays, il est aussi un appel à plus d'égalité dans la diffusion du savoir, la transmission des connaissances, dans l'apprentissage de la citoyenneté.
Une semaine a passé depuis le dimanche 11 janvier. Un peu comme dans un éclair était apparu un pays idéal, mais c'était prévisible, la lumière est suivie de son ombre. L'unanimisme suscite l'exclusion. D'autres France questionnent la France de dimanche dernier. S'élève donc comme une incantation, un appel à la mise en récit à l'école d'une histoire partagée. Mais ce n'est pas simple. L'école est de plus en plus vécue comme le lieu de la reproduction des inégalités. Beaucoup d'entre nous se sentent victimes d'une exclusion de l'espace public ou d'un déni de leur religion. Embarquer en histoire des enfants qu'il faut aller chercher sur des quais si différents, si éloignés les uns des autres, n'est pas une affaire aisée. D'autant que nous vivons de plus en plus les yeux fixés sur des écrans qui nous donnent à voir le monde dans l'immédiat. Alors à quoi bon ce voyage dans le passé ?
La marche de l'histoire, France Inter, Jean Lebrun.
Dominique Borne, bonjour.
Bonjour Jean Lebrun.
Alors pour me moquer de vous, je vais dire que vous avez été super doyen de l'inspection générale.
Absolument, absolument.
Pour vous féliciter, je vais dire que depuis des années, 15 fois par an, vous allez jusqu'à Bondy en Seine-Saint-Denis où vous êtes l'un des animateurs de l'Université populaire.
Oui.
Et vous donnez des cours qui s'intitulent de manière modeste, histoire au pluriel de France.
Histoire de France, absolument, oui.
Et vous publiez chez Gallimard, Quelle histoire pour la France ? Alors, grosso modo, on peut dire que depuis l'époque où vous étiez maître auxiliaire, vous avez vu les programmes et les intentions de l'enseignement de l'histoire perdre repère, père. Et entrer dans une nouvelle ère instable.
On peut dire ainsi, mais j'ai même participé à la réécriture quelquefois.
Parfois, oui.
J'ai même quelquefois participé à la réécriture. Non, mais c'est vrai, on tourne dans tous les sens sur les programmes. Hein. Un peu de Brodel quelquefois, puis on revient à l'événement, puis on retrouve Brodel, et puis etc. etc. Hein. Et puis on ne parle plus à certains moments que de morale, de Shoah et de citoyenneté, et puis etc.
On va peut-être essayer d'expliquer comment ces virages ont été pris en revenant aux sources. Là, vous étiez déjà, à cette époque-là, 79-80, un professeur bien établi.
Oui.
Valéry Giscard d'Estaing avait créé le collège unique et regroupé histoire, géographie, instruction civique. Et on pensait aussi à un moment économie et sciences sociales dans un bloc, et les déplorations et les objurgations ont commencé.
Dans ce livre, les premières phrases, les serfs sont vendus avec la terre au XIIIe siècle. On n'a pas défini les serfs, on n'a pas défini la notion de terre, et le XIIIe siècle ne parle pas. Je tourne, la crue de la Seine en 1427. 1427, pourquoi la Seine, pourquoi ? On enseigne une histoire dite d'éveil en oubliant l'encadrement. On évacue l'événement au profit de thèmes sans valeur pédagogique.
Ces séquences n'ont pas été choisies au hasard, ni pour je sais quel dessein politique qu'on nous attribue bêtement. Et elles ont été choisies, ces séquences, en allant du plus simple au plus difficile, de la sixième à la troisième. Je ne reconnais qu'une critique, si vous voulez, à l'égard de ces programmes. Il faut qu'ils soient assuré par des professeurs remarquables. Mais grâce à Dieu, nous avons beaucoup de professeurs excellents.
Après Jean Tullard, vous avez reconnu votre doyen dans le doyenné ?
Lucien Genet.
À ne pas confondre avec le joueur du football club de Metz. Mais c'est normal que tourne le manège et que l'instabilité caractérise l'enseignement de l'histoire, parce que vous aimez bien croiser comme ça des cycles rapprochés, ce qui ne paraît pas évident au premier abord. On vit la fin du charbon, la fin des paysans, la fin des colonies.
Oui, je crois que c'est la plus grande date de l'histoire de la France. Hein. années 60. Années 60, le charbon va commencer à décliner. C'est le maximum de production de charbon en France, je crois que c'est 59, hein, le maximum. Et puis, peu à peu, les puits vont fermer. Et à la fin du siècle dernier, il n'y a plus de puits de charbon en France. À la même date, accélération de l'exode rural et pratiquement la fin des paysans. Et en même temps, 62, fin de la guerre d'Algérie, en même temps, la fin du temps colonial. Et ce temps a été beaucoup plus bref qu'on ne le croit. Parce que ce temps qui se termine années 60, je ne parle pas des paysans, mais pour les deux autres, avait commencé un siècle avant. Hein. Le siècle du charbon et des colonies, c'est un siècle. Les paysans, il faut remonter au néolithique, hein, bien entendu. Il y a une longue histoire paysanne qui se termine autour de 1960.
À ceux qui se plaignent que l'histoire politique soit surreprésentée dans l'enseignement de l'histoire, faisons remarquer, ils ont peut-être raison, que la fin des paysans, ça n'apparaît pas beaucoup dans l'enseignement de l'histoire.
Ça n'apparaît sûrement pas assez. Il faudrait que ça apparaisse. Et c'est là où le croisement histoire et géographie, qu'on n'arrive jamais à faire, hein, serait très fructueux, me semble-t-il.
Alors parlons de la fin du cycle colonial. Le cycle colonial avait amené les premiers travailleurs immigrés qui ne sont apparus que bien après avoir agi dans le monde de l'enseignement, après avoir agi dans le monde de l'industrie, dans le monde de la construction. C'est un extrait du fameux documentaire « Mémoire d'immigrés » de Madame Benguigui.
J'étais berger. Tu sais qu'est-ce que c'est berger? Ils gardent les moutons dans les champs. C'était pas dur, mais je ne gagne pas beaucoup. Alors, il y a mon oncle qui m'a envoyé une lettre. Il est ici en France, il travaille chez Renault, mécanicien. Alors, il m'a envoyé une lettre, il m'a dit, si vous voulez venir ici en France, il y a du travail, tu gagnes plus que là-bas. J'ai cherché partout, dans le bâtiment, dans toutes les usines. Toujours, il m'a demandé si tu sais lire français. Et est-ce que vous avez certificat d'études? Alors après, j'ai embauché chez Citroën comme cariste, quoi. Quand j'y trouve du travail, je tourne le col du soir pour apprendre, par exemple, votre chef, écouter les ordres de chef, travaille bien, lire. J'habite dans les baraques, on est 4 personnes dans la chambre. Presque comme là-bas en Algérie, hein. C'est pas une vie, mais on fait pas autrement.
Et ensuite, ces immigrés disent, c'est pas une vie, mais c'est nous qui avons construit la vie d'une partie des Français. Les bâtiments, les routes, nous avons travaillé dans les usines. Si c'est pas eux qui le disent, ce sont leurs enfants qui vont le dire.
Absolument, d'autant plus qu'on ne les a pas vus pendant très longtemps. C'est l'islam invisible, l'islam des caves et des garages, l'islam, etc. Et moi, ça m'a beaucoup frappé quand pour le livre, j'ai travaillé sur Lens. Et j'ai regardé les mémoires qui apparaissaient à Lens. À Lens, la mémoire polonaise est omniprésente. La mémoire du football est omniprésente. La mémoire de la mine est omniprésente. Sauf que c'est les Marocains qui ont succédé aux Polonais. Il n'y a pas de mémoire marocaine à Lens. Et les Marocains, déjà morts quelquefois sur le front en 14-18, déjà. Donc, il y a un choix dans les mémoires. Hein, et je crois que la présence des immigrés dans l'histoire, tout se passe comme si elle était considérée comme devant être transitoire, si je peux dire, comme être un moment. Hein, sans qu'on se rende compte que ces immigrés sont entrés dans notre histoire et en font dorénavant partie. Et en partie depuis très longtemps, parce qu'il faut lier le temps colonial au temps de l'immigration. Je crois qu'il est très fructueux de lier le temps colonial au temps de l'immigration. La France, quand on dit par exemple que l'islam n'est pas dans la tradition française. C'est un propos qu'on entend tout à fait en permanence. On oublie quand même que la France a été... Il y a eu 3 départements français en Algérie. Hein, et la France a été une grande puissance musulmane à ce moment-là. Hein. Et ça, on l'oblitère complètement. Avec des grands savants, d'ailleurs, qui s'occupaient de l'islam, qui travaillaient sur l'islam à ce moment-là. On a perdu cela. Hein. On a perdu cela. Donc, je crois qu'il y a une présence. Et il ne faudrait pas dire de l'immigration, hein. Parce qu'ils vont être immigrés pendant combien de temps, hein ? C'est même plus de l'immigration. Une présence de ceux qui sont dont les grands-parents, les parents, les grands-parents, les arrière-grands-parents parfois, sont venus d'ailleurs, et qui ont une trajectoire dans l'histoire de France. Et cette trajectoire qu'il faudrait reconstituer et inscrire dans cette histoire.
Vous ferez les propositions tout à l'heure. On fera un rêve ensemble, Dominique Borne. Ces traces, elles ne s'effacent pas parce que les descendants, ensuite, frappent à la porte de l'histoire. Je ne parle pas seulement des descendants, des immigrés maghrébins qui ont travaillé à Lens. Les descendants de tous les groupes sociaux qui jugent avoir eu un rôle indispensable et avoir aussi essuyé beaucoup de difficultés.
Oui, et c'est là où toutes ces mémoires blessées, hein, pour employer un terme de rigueur, hein, toutes ces mémoires blessées, il faut les soigner par l'histoire. Je traduis tout encore Ricoeur en disant cela. Ricoeur dit que l'histoire soigne les mémoires blessées. Je pense aux Arméniens, et ce n'est pas par des lois qu'il faut les soigner. Hein. Je pense encore aux Arméniens en disant cela. C'est par une inscription dans l'histoire de ce pays, en voyant comment ils sont venus, quand ils sont venus, comment ils ont vécu. Pour prendre un autre exemple encore, moi je suis extrêmement frappé de voir que c'était pas forcément les mêmes bateaux, mais c'est le même moment. Les Harkis sont arrivés en France dans les mêmes bateaux que les rapatriés. Et ils ont eu et les Juifs dans les mêmes bateaux que les Harkis. Hein. Et il y a un destin d'immigrants que partagent musulmans et juifs dans l'entrée en France. Et les Juifs et les musulmans qui vivaient ensemble en Algérie, au Maroc, en Tunisie, qui parlaient la même langue. On oublie que la langue des Juifs, c'était l'arabe. On l'oublie tout le temps, on l'oublie. Donc il y a une histoire à faire, il y a une trajectoire, là encore, à reconstruire dans sa durée.
Mais j'aimerais vous entendre, avant que vous l'exprimiez, votre rêve personnel, Dominique Borne, fondé sur des expériences avec des groupes. Qu'on vous entende plus critique sur ce qui se fait aujourd'hui. Bon, on a compris que la morale patriotique, ça ne va pas reprendre. On ne peut pas faire une flamme en tisonnant des cendres. Néanmoins, vous n'êtes pas nécessairement admiratif de l'enseignement de la nouvelle morale des droits de l'homme, non, qui ne mène pas comme la morale patriotique à l'innocence, mais à la culpabilité.
Donc je crois qu'il y a eu une dérive de l'histoire. On a balancé par-dessus bord les héros, qui étaient tous des militaires. Alors peut-être qu'on a eu raison de balancer les héros, les Duguesclin, les Bayard et les autres, hein. De balancer Marignan, Valmy par-dessus bord. Hein. Mais on a remplacé les héros par des victimes. Enfin, c'est une, et en remplaçant les héros par les victimes et remplacer l'histoire par une morale des droits de l'homme. Et c'est visible non seulement dans les programmes, les deux événements qui figurent tous les deux aux trois niveaux d'enseignement, primaire, collège, lycée, c'est la Révolution française et la Révolution dans ses dimensions droits de l'homme, en lisant, on le voit bien, et la Shoah. Et la Shoah, qui par exemple, est utilisée comme une parenthèse morale. On ouvre la parenthèse, mais après on ferme la parenthèse. Et on voit aussi, si on regarde les politiques, on voit que le précédent président de la République, Nicolas Sarkozy, et l'actuel, que je me permets de rassembler ici, parce qu'ils ont le même usage moral de l'histoire. Et on ne trouve plus son exemple moral historique que dans la période de la Seconde Guerre mondiale. Les quatre personnalités qui vont entrer au Panthéon, prochainement, dans quelques mois, quelques semaines, sont toutes issues de la Seconde Guerre mondiale. Il n'y a plus que des héros valeureux. La Seconde Guerre mondiale, c'est les seuls héros qu'on peut présenter. Il me semble qu'il pourrait y en avoir d'autres, qui ne sont pas forcément des victimes, qui ne sont pas forcément des terroristes.
Parce que vous parliez de l'oubli de la place de l'islam en France. L'oubli du judaïsme,
L'oubli du judaïsme, c'est-à-dire qu'on retient de manière, j'allais presque dire surabondante, je maintiens surabondante, l'antisémitisme, et dans les programmes, etc. Mais le judaïsme, on parle bien des Hébreux en 6e, hein, mais ensuite, on ne parle plus du judaïsme, on ne parle plus que de Dreyfus, etc. Hein, on ne parle plus, et puis de la Shoah, bien sûr, on ne parle plus de l'antisémitisme. Et on parle de la Shoah, moi ça m'a beaucoup frappé, et j'ai beaucoup essayé, quand j'étais en fonction, de faire que ça se passe autrement, sans beaucoup de résultats, je dois le dire, hein, que avant d'expliquer qu'on extermine les Juifs, on dise qui sont les Juifs. Hein. C'est une chose assez simple. Hein. Mais on ne dit pas qui sont les Juifs. Hein. On déplore leur extermination.
Tout à l'heure, vous avez procédé à un glissement passant de immigration à islam.
Oui.
Alors que Oui, c'est vrai. À l'époque de la guerre d'Algérie encore, la présence de l'islam chez les Algériens qui luttaient pour leur indépendance n'était pas évidente chez les Français. Juste avant qu'on en vienne à votre panthéon personnel, à vos propositions personnelles, Dominique Borne, une chanson de l'époque de la guerre d'Algérie, c'est le Banni, bien connu des immigrés en France à l'époque, Akli Yayaten. Il chante ici dans une prison, enfin la chanson est composée dans une prison, mais il travaillait à la fois à l'usine et chantait dans les cabarets quand il était libre.
في بلدان صرت ترميت والعديانين مني استراحوا يا مالي يا مالي يا مالي يا قولوا لأمي ما تبكيش
يا مالي
ولدك رايح ما يوليش
يا مالي
الصبر يا أمي ما تبكيش
يا
De l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
Quelle histoire pour la France ? Une question que vous posiez peu avant les événements que nous avons connus dans un livre que publie Dominique Borne, les éditions Gallimard. Alors vous avez connu les figures imposées, doyen de l'inspection générale, après avoir été professeur, vous avez fait des programmes après en avoir suivi. Et maintenant, c'est le temps des figures libres. Alors,
absolument.
Imaginons qu'on puisse agencer des moments dans l'histoire de France qu'on présenterait qui permettraient de raconter la rencontre des populations.
On peut imaginer l'intérêt d'une nouvelle. Ce qu'on pourrait faire dans l'histoire de France, c'est qu'on devrait être libre de commencer par où on veut. Il n'y a pas de début imposé à l'histoire de France, contrairement à ce qu'on croit toujours. S'il y avait un début imposé, si on attendait que la France s'appelle la France pour attendre le XIIe siècle, alors on ne parlerait de rien avant. Donc, on peut choisir. Et donc, moi, je choisis, mais c'est mon choix personnel que je n'imposerai à personne. Moi, je choisis la fondation de Marseille, qui a l'avantage extraordinaire d'être à la fois racontée par une légende très postérieure, puisque les textes, c'est 5 ou 6 siècles après. Donc,
la fondation de Marseille, c'est
600 avant Jésus-Christ. Mais on est certain que ça a existé parce qu'il y a de l'archéologie qui le démontre. Et donc, il y a une vérité historique que la légende conforte. Dans un sens ou dans l'autre.
Alors, souvenez-vous, il faut que ce soit vrai, mais vous dites, il faut des héros, il faut que ça flatte l'imaginaire.
Il faut que ce soit vrai. Moi, je crois au croisement du mythe et de l'histoire. Moi, je crois beaucoup au croisement. Il n'y a pas d'histoire sans mythe. Il n'y a pas d'histoire parce que le récit lui-même mythifie l'événement. La suite des événements est mythifiée par le récit.
Alors, embarquons dans le récit de la Fondation de Massalia.
On part de Fossé, sur la côte de l'Asie mineure, Fossé grec à l'époque, plus pour longtemps parce que les Perses vont prendre bientôt Fossé, et on a sur leur pentécontère...
Pardon ?
Pentécontère. Vous ne connaissez
mais
pas les pentécontères.
Vos enfants disent que vous utilisez des mots trop compliqués dans vos livres.
Pentécontère, c'est 50 rames, c'est aussi simple que ça. Et Raman ferme donc, avec à leur tête un grec qui s'appelle Protis. Ils sont allés d'abord à Delphes, parce qu'on passe par Delphes pour que l'oracle dise qu'on fait bien. Peut-être ont-ils reconnu les lieux avant. Et puis ils arrivent dans un paysage naturel à l'époque, ou presque naturel. Une calanque, une rade. Et ils débarquent leur bateau, ils veulent fonder une ville. Puisque c'est l'époque de la colonisation grecque. Ils veulent fonder une ville. Et là, ils tombent sur un mariage. le mariage. On dit, on sait très peu de choses sur le peuple qui habitait là. On les appelle dans les sources les Ségobriges. On ne sait pas grand-chose de plus sur les Ségobriges. Mais le roi qu'on appelle Nan...
Le roi des Ségobriges
qu'on appelle Nan, il marie sa fille qu'on appelle Gyptis. Et il y a une coutume chez les Ségobriges, qui sont un peuple très avancé en termes pour les jeunes filles, puisque les jeunes filles peuvent choisir leur mari librement. Et la coutume veut qu'au moment du banquet, la jeune fille donne la coupe d'eau, une coupe d'eau, à celui qu'elle choisit. Le beau grec...
Vous avez oublié de dire que Protis était télégénique.
Il est superbe, Protis. Il a des cheveux blonds qui lui tombent sur les épaules, bien évidemment, hein, les yeux bleus. C'est un grec aux yeux bleus, l'enfant grec aux yeux bleus. Vous savez, c'est une longue tradition historique de l'enfant grec aux yeux bleus. Hein. Donc quand il arrive dans le banquet, Gyptis est pâmé d'amour. Hein, et lui tombe dans les bras, et lui tend la coupe. Et de là naît Massalia d'un croisement de populations.
Avec des plus civilisés qui arrivent.
Des plus civilisés, c'est l'inverse de ce qui se passe ensuite. Hein. Et même nos sources théorisent cela. Ils disent que les Grecs apportent les armes. On préfère les lois aux armes avec les Grecs. On préfère les villes entourées de remparts. On cultive et on n'est pas seulement éleveur, mais on cultive tous les éléments de la civilisation.
Et puis ils apportent le vin présenté une simple coupe d'eau.
Et voilà, et ils apportent le vin. Ouais. Et vous savez que l'archéologie a démontré que peut-être les premiers pieds de vigne plantés en France, sur la butte Saint-Charles, à Marseille.
Mais l'archéologie, ça fonctionne bien dans les imaginaires. Alors, vous aimez croiser le mythe et l'histoire. On peut aussi croiser les moments. Ça, c'est un moment de 600 avant Jésus-Christ. Vous proposez de le croiser avec un autre moment, 500 avant Jésus-Christ. Nous sommes en Bourgogne, dans un lieu carrefour qui s'appelle Vix. Peut-être les descendants de Protis en 500 ont aperçu la dame de Vix, une femme peut-être belle, qui est enterrée sous un tumulus dans ce village de Bourgogne qu'on a découvert en 1953.
Ce qui donne cependant à la trouvaille de Vix son intérêt exceptionnel, ce sont les objets d'importation. L'habitat celtique de Vix contrôlait une importante croisée de route. Il se trouvait d'autre part à la rupture de charge de la Seine, c'est-à-dire au point où elle n'était plus navigable, où l'on chargeait les barques pour l'aval et où l'on déchargeait les marchandises venant de l'ouest et allant vers l'est ou le sud. Enfin, la Seine était l'une des deux grandes voies de l'étain, originaire de Cornouailles et nécessaire à la fabrication du bronze. On peut donc supposer avec vraisemblance sur le territoire de Vix l'existence d'un relais important pour le commerce de l'État et par suite d'un centre d'échange en relation avec la Rhénanie, la Suisse et l'Italie. En tout cas, le riche mobilier funéraire de la tombe de Vix atteste avec éclat la vitalité des grands courants de civilisation qui ont sillonné notre pays bien avant la domination romaine.
Je ne sais qui parle, c'est dans l'heure de culture française, au RTF, rencontre, échange...
Mais c'est vrai que Vix est un point de rupture de charge, effectivement, parce qu'on passe du bassin du Rhône au bassin de la Seine. Hein. Et sans doute, l'énorme cratère de Vix, hein, qu'on a trouvé dans la tombe de la princesse de Vix, princesse, on dit princesse, on n'en sait rien, bien sûr, hein, qu'on a trouvé dans cette tombe, l'énorme cratère vient de Grande-Grèce. Hein. Donc, j'imagine, il est vraisemblable qu'il est passé par Marseille, hein, avant de gagner le Rhône et de rejoindre cela. Et avec des bijoux somptueux, qui sont celtes, les bijoux.
Mais je conçois que vous mettiez l'accent dans cette très longue inscription des immigrations dans l'histoire, sur tous ces échanges pacifiques. Vous donnez moult exemples. Mais vous savez ce qu'expliquait Churchill. Aucune solution ne se trouve... hors de la guerre. J'aimerais maintenant que vous nous disiez comment, selon vous, on pouvait enseigner l'islam dont l'histoire en France a, semble-t-il, commencé au 8e siècle par une invasion. Alors je sais que les bons historiens expliquent que les Sarrasins n'ont touché que secondairement et légèrement le pays. Mais voilà ce qu'on dit traditionnellement, tribune de l'histoire.
Toute la fleur de l'ancienne Narbonnaise tombe au pouvoir des infidèles. Narbonne d'abord, puis Carcassonne, Agde, Béziers, Nîmes. Le duc d'Aquitaine, Eudes, parvient à sauver Toulouse. Alors les cavaliers musulmans s'infléchissent dans la vallée du Rhône. Ils la remontent par étapes. Ils ravagent l'Albigeois, le Rouergue, le Gévaudan, le Velay. Ils adoptent le chemin de la Saône. Les voici en Bourgogne. Beaune est prise et ravagée. Sens se rachète un tribut. Autun est enlevé d'assaut et pillé. Auxerre échappe de justesse au même sort.
Les Arabes campent dans les vallées de l'Aube et de l'Absinthe, à trois pas de l'endroit où s'élèvera plus tard l'abbaye de Clairvaux. Trois barricades ses portes en prévision d'un siège. Ce n'est pas tout. Les Sarrasins, maintenant, n'utilisent plus des barques. Ils savent construire des flottes. Ils touchent terre dans la région de Fréjus. Ils s'installent dans le massif, qu'en souvenir d'eux, nous appelons encore les Maures. De là, ils rayonnent jusqu'en Provence, occupent Arles, bientôt Avignon.
J'en pense que vous disiez, Dominique Borne, c'est très important le début. Est-ce qu'on peut choisir un début? Est-ce que c'est le bon début? Et est-ce que c'est le bon récit?
Le récit est très exagéré, hein, parce que les...
C'est France Inter, vous savez.
Le récit...
Autrefois.
Autrefois. Le récit très exagéré, c'est qu'il y a eu des raids musulmans, c'est comme ça qu'il faut le concevoir, plutôt qu'une assemblée, une occupation générale ou, qui n'a pas existé. Hein. Mais le début... Alors ça, c'est le début d'une histoire, oui. C'est le début d'un cycle de rapports entre la France, les Arabes, l'islam, etc. Hein. Mais je ne néglige pas le conflit, hein, comme vous sembliez le dire tout à l'heure. Hein. C'est même les programmes d'histoire qui ont négligé. Vous savez que toutes les batailles ont disparu des programmes actuellement. Il faut retrouver les batailles, c'est important, les batailles. Hein. Et même, on a vu Villepin qui n'avait pas osé commémorer Austerlitz, naguère, hein, tellement ça faisait peur, une histoire-bataille. Alors, c'est pas ça. Il faut pas avoir une vision lénifiante des rapports entre l'histoire de France et l'islam. Ça a commencé très mal. Hein. Ça a commencé très mal, ça a commencé par une hostilité, ça a commencé par... une hostilité viscérale. Quand on traduit pour la première fois le Coran en France, hein, Pierre le Vénérable avait traduit le Coran, par exemple, il y a une caricature du prophète en diable. C'est les premières caricatures de Muhammad, c'est dans un Coran du XIIe siècle. Hein. Et donc, il y a une hostilité, et même la chrétienté se définit contre l'islam.
C'est-à-dire que l'islam en France a été superficiel dans son occupation au 8e siècle, l'occupation a été brève. Et la première réalité qu'on a eue de l'islam, c'est sous forme d'image. L'image de l'autre.
Absolument. L'image de l'autre, et ça continue pendant les croisades. Et ces images-là perdurent, puisque les islamistes continuent à dire les croisés. Hein. Donc il faut expliquer tout cela pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui. On a besoin d'expliquer cette longue histoire. Hein. Et le faire sans rêve de fausse Andalousie idyllique. Hein. Comme on le fait quelquefois. Les oppositions, elles existent, elles sont fortes. Hein.
Alors, l'Andalousie, lieu idyllique, vous vous intéressez à des moments,
oui.
Vous vous intéressez aussi à des lieux que vous, oui, ne décrivez pas comme idylliques. Je prends un exemple, les pontons de Rochefort. On pourrait faire une histoire racontant les pontons de Rochefort.
Mais les pontons de Rochefort, j'ai trouvé ça un peu par hasard. Hein. Je me suis rendu compte que les pontons, vous savez, c'est des bateaux qui ne peuvent plus naviguer, donc on laisse au port, qu'on appelle des pontons.
Non, mais je sais, Pentecoère, non.
C'est pas vous, c'est un auditeur que j'explique cela.
Ils savent aussi, ils savent beaucoup plus que nous.
Excusez-moi, je suis encore prof. Et donc les pontons qui ont servi, j'ai découvert que ces pontons qui ont servi de mouroir aux prêtres réfractaires pendant la Terreur avaient été des navires négriers. Alors je trouve qu'il y a un raccourci d'histoire tout à fait extraordinaire, hein, de ce lieu-là. C'est fantastique.
Mais j'annonçais un récit partagé de l'histoire que vous esquisseriez, Dominique Borne. Là, vous nous faites un archipel. Un archipel, oui, de moments, un archipel de lieux et un récit.
Je crois qu'on ne peut plus faire un récit continu qui va dans une direction définie. Les deux récits anciens allaient soit vers le jugement final de Dieu, soit vers le bonheur pour tous, selon l'orientation politique des uns et des autres. Mais il y a toujours eu débat sur les récits. Donc l'idée qu'on puisse faire un seul récit, il n'y a jamais eu un seul récit. C'est l'illusion, je crois, et de croire qu'il y avait un récit avant. Il n'y a jamais eu un seul récit. Il y a toujours eu plusieurs récits. Et il faut continuer une polyphonie, je crois. La politique, c'est les récits qui se discutent entre eux. Donc il ne faut pas croire que le récit unique est la fonction de l'histoire de France.
C'est une constellation, dirait Mathieu Vidard. Mathieu Vidard, j'essaye de faire le lien.
Bravo, magnifique
avec
transition, Jean.
Émission qui suit.
Merci
qui
pour vos efforts.
Je vous ai s'intitule
La véritable histoire du système solaire.
Merci Mathieu. L'émission était réalisée par Jacques Sigal, préparée par Elinka Negulesco, Franck Olivard et Frédéric Martin. À la technique, c'était Julien Dumont. Il est 14h.